France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un Quadra épanoui. Le TGV fête ses 40 ans. Nouveau design, nouvelle ligne en projet. Le temps où le train à grande vitesse était jugé trop cher semble révolu. Apple et Google se rendent-ils complices de Vladimir Poutine ? Une application développée par l'équipe Navalny pour orienter le vote des électeurs a disparu des plateformes au moment des législatives. Un mois après l'arrivée des talibans, catastrophe humanitaire imminente en Afghanistan, selon le FMI. Nous serons avec le représentant d'une des rares organisations humanitaires encore sur place, Philippe Ribeiro, de Médecins Sans Frontières. Les journées du patrimoine ce week-end, quelques visites d'ici à 14h. Nous irons dans une ferme fortifiée près de Nancy. Le propriétaire ouvre volontiers les portes et les sous-sols.
Les habitants du village, comme il y a des grandes caves, ils sont venus pendant la guerre, là, s'abriter. Donc, ça appartient aussi aux gens du pays.
À 13h45, dernier épisode de notre feuilleton sur le chantier de Notre-Dame. Et dans le vif de l'histoire, Jean Lebrun se penche sur la difficile vie des propriétaires de châteaux. Dans l'actualité encore, le gouvernement esquisse un plan pour les chômeurs de longue durée. Et puis Greenpeace, 50 ans. Quelle victoire et échec au fil de ces décennies. Jean-François Julliard, directeur général, est notre invité. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions et témoignages. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est sans doute l'événement qui a le plus changé la vie et même la carte de géographie en France depuis les années 80. Le TGV fête ses 40 ans. Le premier trajet Paris-Lyon, c'était le 22 septembre 1981, précisément sous la présidence de François Mitterrand. Anniversaire fêté aujourd'hui, Gare de Lyon. D'abord, séquence nostalgie avant d'aller Gare de Lyon. Raphaël Ebenstein, vous avez rencontré un cheminot qui se souvient de ses premières années glorieuses.
Pas d'image en noir et blanc, mais en orange, couleur historique des premières rames, et des souvenirs encore vifs pour Jean-Marie Grimler, entré à la SNCF début 1982, à la maintenance des freins du TGV.
Les premiers jours où j'ai eu la chance de monter en cabine, j'y croyais pas. C'est pas vrai, je travaille sur la cabine dans la commande de frein du TGV, c'est extraordinaire. À chaque fois qu'on parlait du chemin de fer, mais vous travaillez sur le TGV, les gens étaient éberlués. Oh là, vous travaillez sur le TGV, c'est extraordinaire, quel super train. Ah, ça c'est vrai que c'était génial. C'est un petit peu à l'époque comme si on disait qu'on travaillait sur le Concorde, quoi.
Et Jean-Marie Grimler n'a jamais décroché depuis, accompagnant l'extension du réseau à grande vitesse qui compte maintenant 2700 km de ligne. Ce passionné participe même avec des collègues en dehors des heures de travail à la rénovation de l'historique rame 16, celle du record du monde de vitesse de 1981.
C'est un marqueur tellement fort, je devrais être en retraite aujourd'hui et je suis pas parti à cause de la rame 16.
Et il reste encore émerveillé en constatant à quel point le TGV s'est imposé au cours des 40 dernières années.
On pensait même pas que les rames iraient plus loin que Lyon. On n'aurait jamais imaginé un jour qu'on ferait un TGV Atlantique, un TGV Nord, qu'on irait sous la Manche, qu'on irait en Espagne. Inimaginable.
Et la SNCF ne sera d'ailleurs bientôt plus la seule à faire circuler des trains à grande vitesse en France, puisque l'italien Tello devrait se lancer d'ici la fin de l'année sur la ligne Paris-Lyon, 40 ans donc après le premier TGV.
Et alors, le TGV pourrait traverser une crise de la quarantaine ? Eh bien, ce n'est pas le cas. Bonjour Maxime Deps.
Bonjour.
En direct de la gare de Lyon à Paris, où tout l'état-major de la SNCF et le président de la République se sont donné rendez-vous ce matin. Au début du quinquennat, on soulignait le coût du TGV. On rappelait qu'il s'était développé au détriment des lignes du quotidien. La tendance était à l'entretien du réseau, pas plus. Mais finalement, à l'heure où les courts trajets en avion doivent disparaître, le TGV retrouve des couleurs. Ce matin, la rame du futur a été présentée, Maxime.
Ouais, ce TGVM du futur, c'est un TGV tout simplement plus aérodynamique, hein, plus écologique aussi, des rames recyclables encore plus, avec une économie d'énergie de l'ordre de 20%. 20% comme le nombre de places supplémentaires aussi qu'il peut accueillir. Plus de billets vendus, c'est plus de rentabilité. Le tout agrémenté de sièges nouvelle génération, camailleux de bleu ou de rouge, c'est selon présenté ce matin pour la première fois, avec de la 5G promise aux passagers et un système de recharge intégré à la tablette pour votre téléphone portable.
Cela semble bien que le TGV soit relancé, Maxime.
Ouais, et si ça vous étonne, Bruno, sachez qu'en interne aussi, un côté syndicat, on observe comme un retour de balancier quand on pense à Elisabeth Borne en 2017, alors un ministre des Transports, qui estimait à l'époque qu'on en avait trop fait en matière de TGV, que les trains du quotidien, le TER par exemple, en avaient pâti. Et puis finalement, on se dit aujourd'hui que sans lui, sans ce train de tous les records, on n'en serait pas là en 2021. Rattrapé aussi par les exigences de la loi climat, vous l'avez dit, la favorisation du chemin de fer pour les trajets de moins de 2h30, tout ça doit donner un nouvel élan au TGV dans sa nouvelle mouture, ce TGV du futur, arme véritable de la SNCF à l'heure où celle-ci s'ouvre également à la concurrence. Les Italiens de Trenitalia et les Espagnols de Renfe devant arriver très rapidement sur le marché français.
Maxime Debs en direct de la gare de Lyon à Paris avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques de France Inter. L'heure est aux investissements à la SNCF mais aussi aux économies. Ce matin, elle annonce la suppression de 2 à 3000 postes, ni plus ni moins que d'habitude, assure le PDG Jean-Pierre Farandou, qui évoque l'ouverture à la concurrence pour justifier ses économies. Le gouvernement fait un pas de plus vers une mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage dès le mois d'octobre. Calcul plus strict du salaire journalier pour l'allocation. Le projet de décret a été envoyé hier soir aux partenaires sociaux. Un deuxième volet de la réforme, la durée d'inscription nécessaire avant ouverture, la dégressivité pour les plus hauts salaires, entrera en vigueur le 1er décembre si les conditions économiques continuent de s'améliorer. Est-ce pour compenser cette annonce qui met en colère les syndicats? En tout cas, ce matin, la ministre du Travail annonce aussi un plan qu'elle présente comme inédit pour les chômeurs de longue durée. 3 millions de personnes au chômage depuis plus d'un an, c'est plus de la moitié des inscrits. En quoi consisterait ce plan, Laurent Kramer?
Eh bien, la ministre reprend l'idée de François Asselin à la CPME, former les chômeurs directement dans l'entreprise, selon les besoins immédiats de l'entreprise, besoins de main-d'œuvre que l'on sait nombreux en ce moment. Cela s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, des formations courtes, de l'employabilité immédiate sur des métiers accessibles au plus grand nombre. Les entreprises engagées dans ces dispositifs seront aidées, précise Elisabeth Borne. La question de l'employabilité des chômeurs de longue durée est malheureusement plus complexe que cela. Demande de l'accompagnement renforcé, souligne de leur côté les syndicats, avec des moyens supplémentaires, donc pour un public que l'on sait souvent déboussolé, alors même que les budgets de Pôle emploi sont rabotés cette année, rappellent les syndicats. La ministre parle de recenser de son côté toutes les bonnes pratiques. La question du financement de ces mesures n'est pas encore mentionnée par la ministre, mais selon nos informations, le gouvernement souhaiterait utiliser une partie du plan de relance européen pour financer l'accompagnement des chômeurs de longue durée.
Au fil de la semaine ont donc été annoncées ou promises des mesures pour les chômeurs de longue durée, pour les plus pauvres qui encaissent la hausse du prix de l'énergie, pour les sages-femmes, pour les indépendants. Et maintenant, dans un autre registre, les chasseurs qui manifestent demain dans quelques villes de France. À la veille de cette journée, on apprend, Sandy Dauphin, que 4 projets d'arrêtés viennent d'être publiés pour autoriser des pratiques de chasse qui avaient été en partie interdites par la justice.
Oui, cet été, le Conseil d'État a annulé plusieurs autorisations de chasse traditionnelle d'oiseaux, comme la capture des vanneaux huppés, des alouettes des champs, ou encore des grives avec des filets et des cages. Ces autorisations délivrées par le ministère de l'Environnement n'étaient pas conformes au droit européen sur la protection des oiseaux. Eh bien, le gouvernement va revoir sa copie. Un soutien apprécié par la Fédération nationale de la chasse, son président Willy Schrein, ce matin sur BFM.
On a un harcèlement terrible qui vient de l'écologie punitive en permanence. Les chasseurs sont malmenés, les ruraux en général d'ailleurs. On va la faire un peu courte, on commence à en prendre plein la gueule à longueur de journée.
La Ligue de protection des oiseaux dénonce un acharnement sur certaines espèces en déclin, comme l'alouette des champs, qui a perdu près du tiers de ses effectifs en 30 ans. Pour son président, Alain Bougrain-Dubourg, la position du gouvernement est incohérente, quelques jours après le grand congrès international sur la biodiversité à Marseille.
C'est un nouveau cadeau fait aux chasseurs, surréaliste quand on pense qu'il y a moins de 15 jours, le président de la République à Marseille clamait haut et fort que la France était exemplaire en matière de biodiversité et que l'on voit qu'après le Conseil d'État n'est pas respecté, c'est franchement scandaleux et inacceptable.
Seule consolation pour la Ligue de protection des oiseaux, l'interdiction d'une autre technique de chasse dite traditionnelle, la chasse à la glu, elle, est maintenue.
Les chasseurs électorats traditionnellement de droite, tout comme les indépendants, les mesures viseraient-elles à toucher cet électorat à un moment où le grand parti de droite, les LR, est encore dans le flou? C'est samedi prochain, le 2025, que doit être décidé le mode de sélection du candidat, congrès ou primaire. D'ici là, la campagne interne continue et un ancien président du parti, pas candidat lui-même, est très courtisé, accueilli en vedette lors des récentes universités d'été des jeunes du parti. Anne Souhaitement, c'est Laurent Wauquiez.
Son passage au parc floral il y a 15 jours a marqué les esprits. Laurent Wauquiez accueilli en rockstar, ovationné, malgré son retrait de la course à l'Élysée. Le message avait alors été reçu 5 sur 5 par les candidats de droite à la présidentielle. Dans cette campagne, il faudra faire avec Laurent Wauquiez. D'où les rendez-vous en cascade dans le bureau lyonnais de l'ancien patron du parti, dont on guette le moindre signal. Son clin d'œil appuyé à Michel Barnier sur une chaîne locale quelques jours après l'avoir reçu n'a échappé à personne.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les Alpes qui vont le soutenir. J'étais avec lui hier soir. C'est un grand monsieur.
Ce matin, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse se sont vus. Pas question pour le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de soutenir qui que ce soit. Mais dans l'entourage de Valérie Pécresse, on insiste sur une convergence de vues. Tout faire pour gagner la droite. Laurent Wauquiez aurait redit qu'il souhaitait un processus de départage le plus ouvert possible, dans la droite ligne de la tribune pro-primaire qu'il avait co-signée au début de l'été avec Valérie Pécresse. Laurent Wauquiez, très courtisé, il attend désormais la visite de Xavier Bertrand.
Chez les écologistes, élections en cours. La primaire a commencé hier. Elle se déroule en ligne jusqu'à dimanche 17h. Arrêt sur audience. C'est un rendez-vous que nous vous proposerons tous les vendredis dans ce journal pendant le procès des attentats du 13 novembre. Prendre le temps de vous raconter les faits marquants et les coulisses de ce procès inédit dans l'histoire judiciaire française. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Alors qu'une journée très éprouvante pour les parties civiles s'annonce aujourd'hui, l'écoute d'un court enregistrement de l'attaque du Bataclan, que retenir de cette deuxième semaine d'audience? Charlotte, vous vouliez d'abord revenir sur l'audition de la juge antiterroriste belge Isabelle Panou, c'était mardi.
Oui, une juge étonnante, un peu à contre-pied de ce que nous, on a l'habitude de voir devant les cours d'assises avec des enquêteurs, c'est encore le cas à la barre en ce moment, qui viennent déposer, et selon des règles très strictes, dans un cadre très maîtrisé. Là, c'était véritablement quelqu'un avec une tonalité dans sa déposition totalement différente. On avait presque l'impression qu'elle pouvait raconter ça comme elle aurait raconté à sa famille à la table du dîner du soir, ou presque en tout cas. Elle a tenu à dire un mot sur Molenbeek, ce quartier d'où proviennent la majorité des accusés, et dont il n'y a presque aucune rue qu'elle n'ait pas perquisitionnée, a-t-elle dit, pour rétablir la réputation de ce quartier bruxellois. Et pourtant, tout ça était assez trompeur parce que c'est aussi une des meilleures connaisseuses des dossiers terroristes belges. Elle a jonglé d'un dossier à l'autre. Elle connaît tous les accusés du box. Et quand je dis connaître, c'est qu'elle se souvient de leurs auditions, leur parcours de vie, leurs proches, leurs relations les uns entre les autres. Voilà, c'était véritablement une déposition à la fois très riche sur le fond et assez détonnante sur la forme.
Autre moment marquant, Charlotte, mercredi, quand la parole a été donnée aux accusés, ce qui a dessiné comme une hiérarchie entre eux.
Oui, et puis c'était aussi la découverte, en fait, de ces 14 hommes qui sont ici présents dans la salle d'audience, parce que on les a à peine entendus sur leur identité le premier jour, et là, la parole leur a été donnée sur leur positionnement, sur les faits, finalement. On a découvert, par exemple, un Farid Karkash. Farid Karkash, on lui reproche d'avoir fourni des faux papiers qui ont aidé les commandos terroristes à rentrer en Europe, notamment, et qui dit « J'aurais jamais cru que ces faux papiers allaient mener à ce massacre, je souffre depuis des années ». On a entendu Abdel Achoua, qui comparait libre à cette audience, parler de ses trois merveilleux enfants qui attendent leur père. Alors évidemment, la tonalité générale, c'était de mettre à distance le plus possible l'horreur de ces attentats, de les condamner fermement pour certains, en tout cas de rappeler qu'ils en ignoraient tout, ce sont leurs propos évidemment. Et puis bien sûr, il y a Salah Abdeslam, qui a clairement revendiqué, assumé. Il a expliqué aussi, de manière assez cohérente finalement, de manière respectueuse des règles de la cour d'assises aussi. C'était ça aussi assez surprenant, parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait du principal accusé de ce procès. Il a livré un propos qui pouvait être totalement inaudible pour certaines victimes aux parties civiles, mais il s'est expliqué.
Depuis hier, Charlotte, on est entré dans le très dur, si j'ose dire, les images et les sons de ce soir du 13 novembre.
Oui, c'est véritablement la plongée dans l'horreur, et vous l'avez dit, ça va continuer là encore aujourd'hui avec le Bataclan. C'est quoi concrètement? Ce sont les images d'un kamikaze qui explose devant le Stade de France, ce sont des gens qui s'effondrent en terrasse de la Bonne Bière, ce sont les terroristes qu'on voit bouger la Kalachnikov à la main, qui visent des personnes déjà à terre, ou encore un autre qu'on voit tout sourire sur une vidéosurveillance du métro en train de plaisanter avec un passant, alors qu'un massacre de 39 morts pour celui qui le concerne lui sur les terrasses vient de se produire. C'est encore les corps sur les chaussées, les traces taches de sang. Mais finalement, et c'est peut-être là quelque chose d'une interprétation plus personnelle, mais ce que j'ai trouvé finalement plus bouleversant encore, c'était l'émotion des enquêteurs à la barre. Ces hommes qui ont 25 ans d'expérience, 20 ans d'expérience en brigade criminelle. Et donc quand ils évoquent ces faits, quand ils évoquent par exemple les téléphones qui sonnent dans le vide sur les corps des personnes décédées, en disant on aurait tellement voulu répondre et on ne pouvait pas, leur voix se brise dans cette cour d'assises. C'est la culpabilité de cet enquêteur parce qu'il s'est trompé sur l'identification d'une victime qui était tombée sur le sac d'une autre. Tout ça, finalement, j'ai trouvé que c'était encore plus l'horreur de ces attentats qu'on découvrait là.
Alors, je parlais de coulisses en introduction, Charlotte. Ce qui suit est évidemment totalement secondaire par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Mais ce procès va durer pendant 9 mois. Les audiences sont longues. Elles bouleversent la vie quotidienne des centaines de personnes qui y participent. Et cela demande, et oui, une organisation de vie quotidienne.
Oui, parce qu'il faut tenir, en fait. Il faut tenir sur le plan psychologique, hein, on vient de l'évoquer. Ouais. Ce sont des scènes difficiles. Il faut tenir physiquement parce que ce sont des grosses journées d'audience. Effectivement, ce sont beaucoup de professionnels, hein, qui ont l'habitude des cours d'assises et l'habitude d'un certain niveau d'horreur. Je ne sais pas si c'est celui-là en l'occurrence. Alors, chacun partage ses astuces. C'est véritablement la majorité des conversations en dehors du moment de l'audience à proprement parler. Comment on vient à l'audience, à vélo pour certains, ceux qui font du sport le matin pour se vider la tête, ceux qui ramènent leur salade pour éviter manger trop tôt avant de partir chez eux. Cette avocate qui hier est venue avec un paquet de framboises parce qu'elle trouvait que c'était réconfortant et que ça évitait de dévaliser les Kinder Bueno de la machine à sucrerie qui se trouve pas loin de la salle d'audience. Effectivement, il y a aussi ça en fait. Il y a aussi cette mise en place pour chacun de quelque chose qui va être un très très long tunnel et il va falloir, pour pouvoir aussi travailler dans de bonnes conditions, pouvoir se préserver un peu sur le plan personnel.
Charlotte Pierret en direct du Palais de Justice de l'Île de la Cité à Paris pour France Inter. Merci beaucoup. Ce rendez-vous Arrêt sur Audience existe également en vidéo sur franceinter.fr. À l'étranger, une nouvelle illustration de la démocratie à la mode Vladimir Poutine et cette question, deux grandes entreprises américaines se rendent-elles complices? Les élections législatives ont commencé aujourd'hui. Quasiment aucun candidat anti-Poutine n'a été autorisé à se présenter, mais il en reste quelques-uns. Et l'équipe de l'opposant Alexei Navalny, emprisonné depuis février, avait imaginé une application qui permettait de sélectionner les candidats d'opposition. L'appli a disparu de deux grandes plateformes bien connues, Jean-Didier Revoin.
La tâche des opposants anti-Kremlin se complique. Les autorités sont parvenues à court-circuiter leur système de vote intelligent dont l'application ne peut plus être téléchargée sur les plateformes Google ou Apple depuis ce matin. Un mouvement qui met à mal la stratégie d'Alexei Navalny et de ses partisans, à savoir voter pour le candidat le mieux placé pour battre celui de Russie Unie dans chaque circonscription. Il suffisait d'entrer son adresse dans l'application pour obtenir son nom. Ivan Jdanov, proche collaborateur d'Alexei Navalny jusqu'à son départ en exil à l'étranger, a dénoncé un acte honteux de censure politique. Sur la messagerie Telegram, l'équipe de l'opposant appelle ses partisans à ne pas baisser les bras. Cette semaine, des représentants de Google et d'Apple avaient été convoqués devant une commission du Sénat russe. Il était surtout question de la diffusion de la chaîne YouTube d'Alexei Navalny. Mais force est de constater aujourd'hui que d'autres sujets étaient sur la table et que la peur des poursuites pénales a fini par faire plier les plateformes. Moscou, Jean-Didier Revoin. France Inter.
Et les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à dimanche. Venons-en à l'affaire des sous-marins australiens dont nous avons longuement parlé hier dans ce journal et qui pose beaucoup de questions à l'Europe. Rappel des faits, l'Australie a déchiré un contrat de 56 milliards pour 12 sous-marins français, préférant finalement un partenariat avec les États-Unis et la Grande-Bretagne dans cette zone indo-pacifique où la Chine se fait menaçante. Colère de Paris, qui a annulé hier une soirée de gala qui devait célébrer le lien France-États-Unis. Bref, un des principaux pays de l'Union européenne subit une humiliation. Qu'en dit-on à Bruxelles? Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Ah ben, cela relance évidemment les débats sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne.
En effet, oui, et coïncidence ou pas, eh bien la Commission présentait justement hier sa stratégie diplomatique et commerciale envers cette région du monde. À la tribune, le chef de la diplomatie, Josep Borrell, n'a pas caché sa surprise. Nous n'avons pas été informés, alors qu'un accord de cette nature n'a pas été cuisiné avant-hier, a-t-il lâché de façon assez grinçante. Alors oui, hein, a-t-il insisté dans ce point de presse. Ce qui vient de se produire, c'est une nouvelle preuve qu'il faut agir par nous-mêmes, ne pas tout miser sur nos alliés.
La région est très importante pour notre sécurité, pour nos capacités économiques, et ça nous oblige à réfléchir à la nécessité de porter haut la question de l'autonomie stratégique européenne.
Angélique
Josep Borrell, donc.
Oui. Le comportement, Angélique, des États-Unis et du Royaume-Uni surprend, mais pas plus que ça à Bruxelles.
Non, parce qu'ici, personne ne s'attendait à ce que Tout change avec l'arrivée du président Biden sur les différents commerciaux entre l'Europe et les États-Unis, oui, mais pas par exemple sur la guerre ouverte entre les USA et la Chine, une guerre dans laquelle, on le rappelle, les Européens ne veulent pas s'engouffrer. Donc on prend tout de même les choses avec un peu de hauteur. On l'a senti hier chez Joseph Borrell. Quant aux Britanniques, eh bien la crise est déjà ouverte avec leur non-respect de l'accord de divorce. C'est une nouvelle preuve d'un certain cynisme qui commence à inquiéter tout de même dans certaines ambassades.
Angélique Bois en direct de Bruxelles pour France Inter. En Afghanistan, la catastrophe humanitaire est imminente, dit cette semaine le Fonds monétaire international. Quelle est la situation sur place? L'invité de ce journal pour en savoir plus est Philippe Ribeiro, représentant de Médecins Sans Frontières, présente dans 5 régions en Afghanistan. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Représentant de Médecins Sans Frontières en Afghanistan, MSF, l'une des ONG qui travaille encore sur place. Catastrophe humanitaire imminente, dit le FMI. Que voyez-vous sur le terrain?
Alors, ce que l'on voit sur le terrain, c'est malheureusement la continuation de ce que l'on voyait auparavant, et accélération, à savoir un système de santé pour ce qui nous concerne qui était déjà largement défaillant et qui le devient de plus en plus, avec beaucoup d'interrogations sur sa capacité à faire face aux besoins de la population dans un futur proche.
Ça se manifeste comment, ce système de santé défaillant ?
Ça se manifeste par le fait que la population, enfin les malades, quand ils vont à l'hôpital ou au centre de santé, il n'y a plus personne pour les prendre en charge. Le personnel, dans certains endroits, n'est pas payé depuis plus de 5 mois. Il y a des ruptures de stock et d'approvisionnement. Les médicaments essentiels manquent un peu partout. Et pour ce qui nous concerne, on constate depuis plusieurs semaines déjà une augmentation de la fréquentation dans nos propres hôpitaux.
Et du coup, vos centres sont pris d'assaut parce qu'en plus, ils sont gratuits alors que les centres de soins ailleurs en Afghanistan sont de moins en moins accessibles gratuitement.
Ils étaient officiellement accessibles gratuitement. On ne peut pas parler aujourd'hui d'un effondrement complet en 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de santé était déjà défaillant. Au mois de mai déjà, le ministère de la Santé avait vu son budget amputé de 60%. De ce fait, on a vu progressivement une augmentation du nombre de patients qui se reportent sur les structures qui fonctionnent. Elles sont malheureusement peu nombreuses. Et ce phénomène s'est accéléré ces dernières semaines, bien évidemment, à la faveur de l'arrêt brutal du financement du système de santé, que ce soit par la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et d'autres bailleurs de fonds. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les ONG et l'humanitaire ne pourra pas remplacer l'État et ne pourra pas remplacer le système de santé.
Je le disais, vous êtes présent dans 5 régions, vous travaillez avec les talibans, vous êtes en contact avec eux. Comment ça se passe de ce point de vue-là?
En fait, pour nous, la situation a peu changé de ce point de vue-là, en termes de relations avec les autorités. Nous avions des relations avec le gouvernement précédent, nous avons des relations avec le gouvernement actuel, et nous avons toujours eu des relations en fait avec toutes les parties au conflit. Ce qui fait que pour nous, il n'y a pas eu de changement majeur. Le principal changement est l'amélioration des conditions de sécurité et le fait qu'aujourd'hui, on continue et on peut continuer à travailler à peu près normalement, à la différence près que nous avons plus de patients qui se présentent dans nos différents centres de santé.
Pardon, amélioration des conditions de sécurité, depuis quand, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que depuis qu'il n'y a plus de combat, c'est beaucoup plus facile de pouvoir se déplacer. C'est aussi bête que ça. La fin du conflit, même s'il reste ici et là quelques poches et de temps en temps des conflits, globalement, la situation sécuritaire s'est largement améliorée.
Et je reviens sur les liens avec les talibans. Vous disiez on avait des contacts avec les autorités précédentes, on en a avec les actuels, et ça fait partie du travail des humanitaires. Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on se comporte? Est-ce que les négociations sont différentes avec les talibans qu'avec le gouvernement précédent?
Elles sont de facto différentes parce que les interlocuteurs ont changé, parce que leurs priorités ont changé, parce que leur agenda politique n'est pas le même. Aujourd'hui, il faut bien dire qu'ils sont plutôt comment pourrais-je dire ça? Ils sont plutôt ouverts à la discussion et nous écoutent. Donc on a des relations qui sont bonnes sur le plan de la négociation de notre espace de travail et notre capacité à faire tourner nos centres de santé. Ils nous demandent d'ailleurs de faire plus,
Oui.
Très clairement. Maintenant, comment tout ça va évoluer? Ça fait à peine plus d'un mois qu'ils ont pris le pouvoir. On est toujours dans une phase de transition.
Je crois qu'il y a 2300 Afghans qui travaillent pour MSF dans le pays, y compris des femmes. Les talibans laissent travailler les femmes en toute liberté?
Dans le secteur de la santé, oui. Nous n'avons absolument aucun problème pour que nos collègues féminines viennent travailler chez nous, dans les hôpitaux, les centres de santé, même au bureau. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour d'autres secteurs d'activité. Il y a très clairement une autorisation. Est-ce que c'est une exception? Je n'en sais rien. On verra sur le long terme. Ils ne sont pas encore prononcés là-dessus. En tout cas, il y a des secteurs d'activité où les femmes ne sont pas autorisés à y travailler, mais le secteur de la santé, lui, reste tel qu'il était auparavant.
Philippe Ribeiro, représentant de Médecins Sans Frontières en Afghanistan, entretien enregistré en début de matinée, il était alors midi à Kaboul. On peut difficilement faire plus bête que ce mot-clé qui circule en cette rentrée dans les collèges et sur les réseaux sociaux. Le mot-clé en question, c'est anti-2010. C'est la version, au fond, 2021 du vieux principe idiot. Les aînés, 5e, 4e, 3e, font les malins et bizutent les petits 6e. La plupart de ceux qui arrivent cette année au collège sont nés en 2010. Sauf que, justement, la version d'aujourd'hui est plus vicieuse. Elle circule vite en ligne. Le phénomène est suffisamment inquiétant pour que la Fédération de parents d'élèves FCPE alerte le ministère et que Jean-Michel Blanquer lui-même publie une vidéo de mise en garde sur les réseaux. Il faut contacter le numéro 3810 pour demander le retrait de la vidéo en ligne si nécessaire. Quant aux élèves harceleurs, ils risquent des sanctions. Les directeurs d'établissement ne sont pas plus inquiets que cela. Tout de même, Juliette Jay, bonjour. Est parti des réseaux sociaux, Juliette.
Oui, depuis plusieurs jours, des vidéos fleurissent sur le réseau social TikTok, principalement pour dénigrer les enfants nés en 2010, des moqueries vis-à-vis de leur tenue vestimentaire et puis des menaces dans cette vidéo par exemple. On voit des personnages de jeux vidéo chargés des armes pour aller combattre et puis en légende un message qui ne trompe pas les 2007 et 2008 quand ils voient les 2010 à la rentrée. Tout est parti en fait du jeu Fortnite selon Yasmine Bouneau de la plateforme NetRespect pour la protection des jeunes en ligne.
Il semble donc que le comportement de certains jeunes nés donc en 2010 aurait agacé donc des plus grands et donc plusieurs jeunes plus âgés ont voulu donner entre guillemets une leçon au 2010.
C'est ainsi que le hashtag anti-2010 a émergé. Il cumule plus de 40 millions de vues sur TikTok et les conséquences commencent à se voir dans les cours d'école où des sixièmes sont interpellés par les plus grands. Yasmine Bouneau.
Ce que ça vient révéler, c'est que vie en ligne ou vie réelle, pour les jeunes générations, il n'y a pas de différence. En fin de compte, la frontière, elle n'est que dans l'esprit du monde des adultes qui disent « mais tout ça, c'est en ligne, donc ça n'a pas de réelle existence ».
Pour la fondatrice de NetRespect, il est donc indispensable que les parents prennent ces menaces au sérieux et engagent le dialogue avec leurs enfants.
Allez, pour apaiser tout le monde, visite en famille au château ce week-end. Ce sont les journées du patrimoine. Parmi les très nombreux sites ouverts, il y a une ferme fortifiée des 15 et 16e siècles à Seixey-aux-Forges, à une quinzaine de kilomètres de Nancy. Les propriétaires ouvrent leurs portes depuis les premières journées du patrimoine et cela leur semble normal. L'hôte s'appelle Jean-François Soligo.
Un monument comme ça, ça n'a rien à voir avec une maison ou un pavillon personnel, quoi. Moi, je ressentais comme ça que ça appartenait aussi à la collectivité. Parce que le bâti est une histoire très longue, quand même. Ça fait plus de 500 ans que c'est là, que ça a régenté ou gouverné un peu la vie des habitants. Qu'on le veuille ou non, ça appartient aussi à la collectivité. C'est comme ça que je comprends la subvention des monuments historiques, puisque quand on fait des travaux sur les parties qui sont inscrites, comme les vitraux, par exemple, les fenêtres, on reçoit une subvention. Donc, ça me paraît c'est tout naturel de faire visiter, découvrir. Moi, je rajouterai encore une chose. Des habitants du village, comme il y a des grandes caves, ils sont venus pendant la guerre, là, s'abriter. Et il y en a qui étaient tout contents de voir. Ah ben oui, c'est là qu'on avait passé. Donc, ça appartient aussi aux gens du pays.
Un propos recueilli par Isabelle Baudrier de France Bleu Lorraine, les journées du patrimoine. On y revient dans le feuilleton et dans la chronique de Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Pour l'instant, dans une petite minute, la météo.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Magnétique et fascinant. Avec Clara et le Soleil, Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature, nous offre un superbe roman d'amitié. À 14 ans, Josie est livrée à elle-même. Pour lui tenir compagnie, ses parents lui offrent Clara, une amie artificielle. Lorsque Clara arrive chez la jeune fille, elle comprend qu'un secret pèse sur la famille et que Josie est en danger. Jusqu'où ira-t-elle pour la sauver ? Laissez-vous éblouir par Clara et le Soleil, une formidable leçon d'humanité, signée Kazuo Ishiguro. Un roman Gallimard.
Lundi 20 septembre, Affaires sensibles de Fabrice Drouel arrive sur France 2.
Entre Édouard Balladur et moi, Nora Peur.
ne s'inscriront jamais dans un contexte de concurrence.
Les fameux amis de 30 ans.
Documents inédits et témoignages exclusifs pour ce nouveau magazine adapté de l'émission emblématique de France Inter.
Le financement de la campagne présidentielle de 1995.
Présidentielle de 1995, un scandale d'État dont affaires sensibles avec Fabrice Drouel, lundi 20 septembre à 23h05 sur France 2 avec Lina et France Inter.
Dans un instant, notre invité est le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard. Toutes vos questions sont les bienvenues sur les 50 ans de Greenpeace au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. D'abord le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Quelle est la tendance ?
Eh bien, c'est calme avant l'arrivée de nouvelles pluies par l'ouest. Elles vont gagner la pointe bretonne dans l'après-midi. Elles traverseront le pays ce week-end en entraînant une baisse des températures. Mais en attendant, entre la basse Normandie, les Charentes, le massif central, cet après-midi, c'est nuageux avec quelques averses. Ça n'empêche pas des éclaircies appréciables. Ailleurs, c'est le soleil qui l'emporte, avec tout de même un peu plus de nuages en montagne. Parfois une averse, voire un orage sur le sud des Alpes. Et puis les températures, Bruno, elles sont de saison. 21 degrés à Cherbourg, à Nancy, 23 à Nantes, 24 à Paris ou à Grenoble, 25 degrés à Toulouse, à Biarritz et 27 degrés pour Nîmes ou Ajaccio.
Merci Élodie Calac, l'invitée du 13-14.
France Inter, le 13-14. Bruno Dizou.
Le 15 septembre 1971, un navire du nom de Greenpeace quittait le port de Vancouver, Canada, pour tenter d'empêcher un essai nucléaire américain au large de l'Alaska. L'une des organisations écologistes les plus célèbres était née. Elle a donc 50 ans, un demi-siècle, cette semaine. Anniversaire qui tombe alors que l'été a été marqué par des incendies, inondations et un rapport du GIEC, toujours plus alarmiste, sur la réalité, les effets du dérèglement climatique et la marge de manœuvre qui diminue au fil des années pour inverser le cours des choses. Depuis 50 ans, Greenpeace mélange le lobbying et le happening pour lutter contre la chasse à la baleine, le forage pétrolier, le choix du nucléaire. La méthode doit-elle évoluer à l'heure du changement climatique et de nouvelles formes de mobilisation écologiste? Cela fait partie des questions que vous pouvez poser au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter, rubrique Réagir pour vos interventions. L'invité du 13-14 est aujourd'hui le directeur général de Greenpeace France. Bonjour Jean-François Julliard.
Bonjour.
Quel combat avez-vous gagné? Quel combat avez-vous perdu en 50 ans?
En fait, en 50 ans, on a gagné des combats sur, pour prendre un exemple, sur l'immersion de déchets radioactifs en mer. C'était une pratique qui existait jusque dans les années 90. Et suite à la mobilisation de Greenpeace et d'autres organisations sur cette question du nucléaire, cette pratique qui consistait à jeter en mer des déchets a été interdite. Ça paraît sidérant aujourd'hui,
oui,
mais
absolument.
Ça existait jusqu'en 1990. Donc on a gagné ça. Et puis surtout, on a gagné une bataille des consciences. C'est-à-dire qu'en 50 ans, ce qui a principalement évolué, c'est que les questions environnementales et écologiques sont présentes partout aujourd'hui, de nos dîners de famille aux débats politiques, en passant par tous les grands débats de société, et puis on a vu cette jeunesse se mobiliser récemment et tout ça. Donc il y a un vrai éveil des consciences qui s'est fait au cours de ces 50 années. Alors Greenpeace n'a pas seul réussi ça, mais en tout cas on y a contribué, largement contribué, et on voit bien surtout que cette prise de conscience, elle est devenue internationale. Quand Greenpeace est né dans les années 70, c'est au Canada, rapidement en Europe. Ces continents commencent à se sensibiliser sur les enjeux environnementaux, mais c'est pas du tout le cas des autres régions du monde. Aujourd'hui, ces enjeux, ils sont présents partout. Greenpeace est présente en Chine, est présente au Brésil, est présente en Russie, est présente en Afrique.
Dans combien de pays d'ailleurs en tout, vous l'avez en tête?
En tout, on est présent dans 55 pays. Et il y a beaucoup de pays dans lesquels on aimerait bien être présent aussi, mais c'est compliqué parfois pour une organisation comme Greenpeace de s'installer là où on le souhaiterait le faire.
Qu'est-ce qui est compliqué?
Ce qui est compliqué, c'est qu'on a des relations très souvent difficiles et tendues avec les gouvernements, qu'on n'est jamais spécialement les bienvenus quand Greenpeace débarque quelque part ou quand Greenpeace veut créer une nouvelle entité quelque part. Les gouvernements ne nous voient pas forcément arriver d'un bon œil parce qu'on est une organisation qui dérange souvent, qui pointe du doigt les responsables des pollutions environnementales et souvent les responsables sont soit des grandes entreprises qui ont des liens avec les États, soit les États eux-mêmes qui se rendent responsables de ces pollutions, ou en tout cas couvrent ces pratiques-là.
Alors vous avez cité une victoire, un échec de ces 50 ans.
Malheureusement, je dirais, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 50 ans, mais finalement, on n'a pas beaucoup de raisons de se réjouir de cet anniversaire. C'est-à-dire que quand on voit les principaux indicateurs qu'on utilise pour mesurer l'état de santé de la planète, on n'a pas de quoi se réjouir. Quand on voit les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de la crise climatique et qui continuent d'augmenter à l'échelle de la planète, on n'a pas de quoi se réjouir. Donc, notre plus grande défaite, je pense, elle est celle-ci. C'est-à-dire de ne pas avoir réussi à convaincre tous ceux qui peuvent agir de commencer à réduire cette courbe dramatique des émissions de gaz à effet de serre et à réduire l'impact de la crise climatique.
Comme si vous aviez convaincu ceux qui l'étaient déjà et échoué peut-être à entraîner de nouveaux convertis, si j'ose dire.
En fait, je pense qu'on est en train de le faire. Et comme je disais, il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, il faut transformer cette prise de conscience en passage à l'acte. Mmh. Il faut qu'on arrive à convaincre le plus grand nombre, et notamment les gouvernements qui ont beaucoup de possibilités entre leurs mains, que ces changements qui sont effectivement profonds, parce que quand on veut lutter efficacement contre le dérèglement climatique, il faut profondément transformer nos modes de vie, nos sociétés, la manière avec laquelle on se déplace, on se chauffe, on travaille, on mange. Enfin, ce sont de vrais bouleversements de nos vies. Mais ces bouleversements sont non seulement nécessaires pour faire face à cet impératif climatique, mais surtout ils sont, pour nous en tout cas, source de réconfort et d'enthousiasme, parce que la vie, une fois qu'on aura mené à bien ces transformations, elle sera meilleure, elle sera apaisée, elle sera plus facile pour beaucoup.
Écologie positive, c'est en quelque sorte ce que vous nous dites.
Ouais, mais parce que c'est vrai. À chaque fois qu'on explique un peu quelle est notre vision du monde, finalement les gens se rendent compte que cette vision du monde, elle n'est pas du tout catastrophiste. Au contraire, elle est plutôt positive. Mais il faut qu'on arrive à convaincre les gouvernements qu'il faut en passer par ces changements qui parfois sont difficiles à mettre en œuvre. On en convient.
Patrice au standard de France Inter, vous nous appelez de la Meuse. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Eh bien, Greenpeace a été célèbre pour sa contribution à l'arrêt des déversements de déchets nucléaires dans les océans. Est-ce que M. Julliard n'a pas l'impression que la poursuite de la construction des centrales et la mauvaise gestion des déchets a été un échec? Vous savez que hier a démarré la déclaration d'utilité publique pour l'enfouissement des déchets nucléaires, Abure, qu'on appelle le CGO. Hein. Ouais. Donc cette DUP est une duperie. Alors j'aimerais bien qu'on le voit un peu plus présent du côté de Bure, et pour rappeler finalement que ce que signifie CGO, pour résumer, c'est corruption, infiltration, garde à vue, enfumage et oppression. Voilà, il faut absolument qu'on ait l'appui de cette organisation, parce que ça devient très dramatique et on est vraiment contraint par un système de surveillance intolérable.
Et voilà pour vos propos un brin militant, Jean-François Julliard.
Oui, mais je suis d'accord. Il y a d'ailleurs des personnes, une équipe entière de Greenpeace qui est venue à Bure il y a quelques semaines à peine. C'est vrai que c'est un problème, le nucléaire civil, parce que vous avez dit que Greenpeace est né d'un combat contre le nucléaire militaire mené au large de l'Alaska contre les essais menés par l'armée américaine. Mais ça fait effectivement depuis que Greenpeace existe qu'on essaie de convaincre qu'on doit se passer de l'énergie nucléaire, parce qu'elle est porteuse de risques, parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets. C'est vrai que ce qui se passe à Bure aujourd'hui est hallucinant.
Même à l'heure du dérèglement climatique, où la priorité numéro un est la décarbonation de l'économie, et où le nucléaire, qu'on le veuille ou non, est une énergie décarbonée.
Oui, parce que le nucléaire est une énergie peu carbonée, c'est vrai, mais le nucléaire est aussi porteur en soi d'autres risques de pollution radioactive, le risque d'accidents et de catastrophes nucléaires. Il y en a eu, pas beaucoup, mais on en mesure toutes les conséquences. Mais surtout, même si on est pro-nucléaire, personne n'a réussi encore à me faire la démonstration que le nucléaire pouvait vraiment aider à régler la crise climatique. Si on voulait réellement baisser les émissions de gaz à effet de serre grâce à du nucléaire, il faudrait qu'on se mette à construire des centrales nucléaires partout, chaque semaine, en permanence, dans tous les pays du monde. Mais sauf que ça, ce n'est pas la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que construire un réacteur nucléaire, c'est plusieurs milliards d'euros. C'est une technologie qu'on maîtrise de moins en moins bien. On le voit avec l'EPR de Flamanville qu'on n'arrive toujours pas à construire en France, qui est censé être le pays le plus en avance sur les questions du nucléaire. Et puis c'est surtout une acceptabilité sociale de plus en plus compliquée. De moins en moins de pays ont envie d'avoir des centrales nucléaires. De moins en moins de pays s'avancent sur le terrain du nucléaire. Au contraire, on voit plus de pays qui s'en détournent, qui sont en train d'en sortir, comme l'Allemagne ou d'autres pays européens.
L'Allemagne, premier émetteur, me semble-t-il, de CO2 de l'Union européenne depuis que Angela Merkel a fait ce choix.
Non, c'est pas lié à ça. L'Allemagne a toujours eu un problème avec le charbon. Ça, c'est clair. On ne le cache pas. Et Greenpeace Allemagne, c'est sa priorité numéro un, c'est la sortie du charbon en Allemagne. Mais c'est faux de dire que c'est lié à la sortie du nucléaire. Ça a toujours été là. Depuis l'annonce de la sortie du nucléaire, les Allemands ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de développer les énergies renouvelables. Et ils le font. Ils sont en avance sur ce terrain-là. Que l'Allemagne ait un problème avec les centrales à charbon, ça c'est clair. Personne n'en doute. Et il faut absolument sortir du charbon, ce que l'Allemagne a annoncé pour 2038. Pour nous, c'est bien trop tard, mais il y a un plan d'action qui est en œuvre.
À propos du nucléaire, vous co-publiez, si j'ose dire, avec l'illustratrice Alizée Dupin, une bande dessinée qui s'appelle Accident majeur et qui imagine un Fukushima à la française en cette rentrée. C'est possible, un Fukushima à la française?
Bah oui, lisez la BD, vous verrez que c'est malheureusement possible parce que beaucoup de ces scénarios ont été utilisés. Là, en l'occurrence, le scénario de la rupture d'un barrage qui crée une sorte de mini tsunami qui va inonder une centrale et causer la fusion d'un cœur de réacteur. Mais malheureusement, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Bien sûr, je souhaite que ça n'arrive pas, mais c'est possible. Il faut avoir conscience que le risque est bien présent et qu'aujourd'hui, on vit dans le pays le plus nucléarisé au monde. C'est-à-dire que la France est le pays qui utilise le plus le nucléaire pour produire son électricité.
Pardon, revenons un instant sur Bure. Après les propos de notre auditeur, je vais me faire l'avocat du diable. En l'état actuel des connaissances du nucléaire, dans la mesure où il y a des déchets, est-ce que l'enfouissement sous terre n'est pas la moins mauvaise des solutions? C'est l'argument de ceux qui défendent ce projet. Que répondez-vous?
Pour nous, la moins mauvaise des solutions, c'est de laisser les déchets là où ils sont, c'est-à-dire dans les centrales. Parce que ça permet déjà de limiter les transports, ça veut dire qu'on n'a pas à les déplacer en permanence sur les routes françaises, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a des camions, des trains qui transportent des déchets nucléaires en permanence sur nos routes et qui passent dans nos gares. Il faut avoir ça en tête aussi. Et puis, ça permettrait surtout d'avoir conscience de l'accumulation de ces déchets. Si on commence à les enfouir sous terre, on va les oublier, on ne va plus s'en soucier. Les laisser dans les centrales, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème de place aussi, d'entreposage, et que du coup, on a toujours conscience de l'accumulation de ces déchets, du problème qu'ils représentent.
Jean-François Julliard, question de Benjamin, alors que se tient la primaire des écologistes. Je me trompe peut-être, mais pourquoi Greenpeace ne soutient-il pas une candidature écologiste aux élections ?
Parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas une organisation partisane au sens de Greenpeace n'a jamais soutenu un candidat ou une candidate, un parti politique ou un autre.
Sachant qu'Yannick Jadot, je le rappelle, est un ancien de chez vous.
Bien sûr, c'est vrai. On soutient des idées, on soutient des propositions. On n'hésite pas à dire quand il y a dans les différents partis politiques français ou ailleurs des propositions qui nous vont bien. On soutient ces propositions et ces idées. Mais encore une fois, chacun est dans son rôle. Greenpeace n'est pas là pour faire campagne pour un candidat ou une candidate.
Comment concilie-t-on la fin du monde et la fin du mois? Jean-François Julliard.
En travaillant dessus, et c'est ce qu'on fait depuis déjà 2 ans maintenant, dans cette coalition, ce collectif qu'on a monté avec différents syndicats qui s'appelle Plus Jamais Ça, dans lequel on retrouve la CGT, mais aussi FSU, Solidaires, la Confédération Paysanne et d'autres organisations, et qu'on essaie d'aller ensemble à la rencontre notamment des travailleurs dans un certain nombre de sites industriels pour essayer de trouver des solutions qui soient à la fois bonnes pour préserver l'emploi de ces personnes-là et bonnes pour la protection de la planète. C'est loin d'être évident. Aujourd'hui, on est en train de travailler par exemple avec des raffineurs de pétrole. Donc c'est très contre-intuitif pour Greenpeace de travailler avec des raffineurs de pétrole, mais pour essayer avec eux, parce que eux aussi sont conscients de la pollution liée au raffinage de pétrole, pour essayer de travailler avec eux à un projet alternatif qui permettrait à la fois de sauver leur emploi et de faire en sorte que les activités industrielles futures ne soient pas aussi nocives qu'elles le sont pour la protection du climat.
Et qu'est-ce qui émerge de cette discussion?
Alors ce sont vraiment les prémices, ouais. Mais ce qui émerge en tout cas, c'est qu'il faut trouver ensemble des solutions.
Greenpeace et des raffineurs qui discutent avec des raffineurs.
Bien sûr, c'est une info. Mais ça fonctionne parce que on n'est pas là pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'on va les écouter, on va les rencontrer et on va essayer de travailler ensemble à trouver des solutions. Si on y arrive, ce sera un modèle à suivre, j'espère.
Les actions de type happening vont continuer. Elles ont toujours leur efficacité. On se souvient de celle au match de l'Euro qui a failli tourner à la catastrophe. Le parachutiste qui a mal maîtrisé son atterrissage. Elles ont quel sens aujourd'hui ces actions happening?
Elles ont du sens. Mais alors, vous citez celle qui a échoué. Oui, on s'est raté.
C'est le jeu.
Il y en a plein d'autres qui réussissent, fort heureusement, et une immense majorité qui réussissent. Elles ont du sens parce qu'elles bousculent les lignes, parce qu'elles dérangent, parce qu'elles interpellent. Et seules, elles ne suffisent pas. Mais en complément de tout le travail que peut mener une organisation comme Greenpeace, de production d'expertise, de documentation des pollutions environnementales, d'essayer de convaincre directement les ministres ou les responsables politiques dans leur bureau.
De faire du lobbying, vous assumez le mot.
De faire du lobbying, oui, on assume le mot, bien sûr. Ça vient en complément de ça et ça permet de débloquer les choses quand les choses sont complètement bloquées. On a beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont fini par nous ouvrir leurs portes et nous rencontrer. Alors ça ne veut pas dire qu'elles font ce qu'on leur demande, mais en tout cas au moins ça permet d'installer un dialogue uniquement parce qu'à un moment donné il y a eu une action de ce type-là. Les gouvernements, ça les fait bouger aussi. Donc oui, ça reste un mode d'action, la désobéissance civile, qui a toute sa place et qui est pour moi légitime et efficace surtout.
Jean-François Julliard, alors que Jean Lebrun, l'homme du vif de l'histoire, est en train d'entrer
dans ce studio un épisode dans l'histoire de Greenpeace, le sabotage du Rainbow Warrior en 85 par les services secrets français. C'était le navire amiral de Greenpeace dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Un photographe membre de l'équipage a été tué dans cette opération. Que reste-t-il de cet événement 25 ans, même plus que ça, 35 ans après?
En fait, pour moi, cet événement a profondément changé les relations que Greenpeace peut entretenir avec le gouvernement français. Et même 35 ans après, ça reste. Ça reste parce que finalement, les générations politiques ne se sont pas complètement renouvelées. Je rappelle qu'à l'époque, c'était Laurent Fabius qui était Premier ministre et qu'on s'est retrouvé en 2015 dans les négociations pour la COP21 oui. pour le climat, cette conférence mondiale pour le climat, avec Laurent Fabius à la tête de ces négociations. Donc quelque part, une certaine ironie de l'histoire. Et quand j'ai voulu aborder ce sujet-là avec lui, j'ai bien senti que c'était encore extrêmement délicat et difficile. Donc on sent bien que Greenpeace... dans les relations qu'on a avec le gouvernement, ces relations sont réellement singulières en France par rapport à d'autres pays. On sent bien qu'il y a une sorte de tension supplémentaire et je suis assez convaincu que c'est aussi lié à ce sabotage qui a eu lieu il y a fort longtemps mais qui reste dans les mémoires.
Il y a 35 ans, merci Jean-François Julliard et la bande dessinée Accident majeur, elle est publiée aux éditions du Faubourg. Merci d'être passé dans les studios de France Inter, 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
La vie de château n'est pas si facile que cela ?
Non, je vais défendre et illustrer la vie des nobles propriétaires de châteaux à la veille des Journées du Patrimoine.
Notre contribution aux Journées du Patrimoine, c'est aussi le feuilleton. Nous nous promenons sur le chantier de Notre-Dame, dernier épisode avec Rémi Brancato. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
À votre micro aujourd'hui Frédéric, l'actrice Lou Delage, elle tient le premier rôle du film Le Bal des Folles de Mélanie Laurent, premier film français produit par Amazon Prime, s'est lancé aujourd'hui. Et c'est l'adaptation d'un roman de Victoria Mas.
Une adaptation très réussie d'une histoire bouleversante autant que révoltante. Des femmes internées de force à la pitié salpêtrière dans le service du célèbre docteur Charcot. On est au 19e. On les juge hystériques ou déséquilibrées et elles servent de cobayes pour des expériences. Lou Delage est formidable dans le rôle d'Eugénie, une jeune fille internée parce qu'elle entend et voit les morts. C'est d'ailleurs d'une chanteuse qui a beaucoup écrit sur la mort qu'elle a choisi de me parler.
Allez, je tente ma chance. Barbara,
dis, quand reviendras-tu ?
En fait, j'ai choisi cette chanson parce que un des tout premiers projets que je faisais où il fallait trouver une émotion comme ça très sensible dans les larmes, dans voilà une déchirure, et que je découvrais ce métier-là où je m'étais dit, mon Dieu, mais ils sont complètement fous, il faut en 2 secondes et demie se connecter à une émotion. Comment je me connecte à ça ? En oubliant les techniciens qui travaillent partout, et c'est normal, mais en me concentrant sur quelque chose d'extrêmement intime au milieu du bruit. Et je m'étais chanté cette chanson dans ma tête, parce que c'était la technique de ma mère quand on riait enfant, pour se dire « pleure sur commande », et on avait la technique de la petite chanson, où quand tu te chantes une petite chanson dans la tête, ça peut faire venir une émotion, même si personne ne l'entend du coup à part toi. Et moi, cette chanson avait cet effet-là, donc je ne l'ai utilisée qu'une fois, je ne fais même plus ça du tout aujourd'hui.
C'était quoi ce film ?
Ça, c'était une série qui s'appelait 1788 et demi.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos pères déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Cette chanson est sortie au début des années 60, Frédéric.
Sur l'album du même nom, dis, quand reviendras-tu? Une femme qui attend le retour de celui qu'elle aime. Lou Delage en a-t-elle attendu, elle aussi, des hommes qui n'arrivent jamais ?
Qui n'arrivent jamais, non. Parce que ma vie n'est pas à ce point-là une pièce de théâtre. Ils arrivent toujours à un moment. Ils repartent aussi. Mais... oui, on attend tous. Et donc on vit des choses en attendant, pour combler cette attente.
Dans la chanson, elle dit qu'elle va combler cette attente avec un autre homme.
C'est là où moi je la trouve très forte, c'est qu'elle raconte avec des mots très simples toute la complexité d'un sentiment, où on peut aimer et espérer profondément tout en se préservant et en continuant à vivre. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour.
Pour vous, c'est quoi la plus jolie saison pour se parler d'amour ?
Bon, celle où on s'aime, ça dépend.
J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau aimer.
C'est aimer sous la pluie, c'est beau. C'est aimer quand il fait froid, c'est beau. C'est aimer quand on a trop chaud, c'est beau aussi. L'amour a plein de saisons. Puis on a tous des goûts différents. Et puis selon les âges aussi, peut-être on a plus d'attirance pour un amour d'été. Et puis à un moment, on n'en peut plus de l'amour d'été. On a envie d'un amour de printemps. Et comme on est en perpétuel mouvement, et ben tout ça se transforme toujours.
Mais quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Barbara dit, quand reviendras-tu ? C'était donc Frédéric, le choix de l'actrice Lou Delage.
Que l'on retrouve dans le film Le bal des folles de Mélanie Laurent sur Amazon Prime Video.
Bon week-end.
Bon week-end.
Des journées du patrimoine avec nos deux chroniqueurs. Ce week-end, pour ces journées du patrimoine, l'établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame présentera sur le parvis de la cathédrale les différents artisans, ouvriers, métiers qui participent à la sécurisation et la restauration de l'édifice. Et depuis lundi, Rémi Brancato nous emmène sur ce chantier, celui d'une vie pour beaucoup de ceux qui y participent. Dernier épisode aujourd'hui, le travail de tri des vestiges et le travail scientifique mené sur le chantier.
Fin avril 2019, donc à peine une semaine, 10 jours après l'incendie, dans la cathédrale, il y avait trois amas, que certains ont appelé des décombres, des gravats, et que nous avons considérés immédiatement comme des vestiges. Il faut imaginer donc une voûte à ciel ouvert, et au sol, trois tas de bois calcinés, de fragments de voûte, donc de pierres effondrées, le tout enchevêtré, comme une sorte de mikado géant dont il fallait extraire les éléments un par un, de manière délicate pour ne pas les abîmer. Je suis Dorothée Chaouy-Durieux, je suis conservateur du patrimoine à la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France.
Moi, je suis Aline Magna et je dirige le laboratoire de recherche des monuments historiques. Je suis historienne de l'art. Nous avons travaillé au début avec la police scientifique parce qu'il y avait aussi l'enquête sur les origines de l'incendie. Donc la police scientifique était aussi là. On s'entraidait d'une certaine manière, on leur tendait certains éléments qui pouvaient les intéresser. Ils nous tendaient d'autres éléments qui pouvaient aussi, à leurs yeux, nous intéresser.
Sur le sol, ce n'est pas nous qui faisions le prélèvement des vestiges, mais des personnes aidées d'engins télécommandés qui allaient les chercher pour nous les apporter sur la table de tri, alors qui était située de l'autre côté, dans l'autre bas-côté de la cathédrale, sur laquelle nous opérions le tri, les mains dans le charbon, les mains dans les vestiges, pour voir ce qui était intéressant de conserver et ce qui risquait de plus avoir aucune valeur patrimoniale. Ça représente aujourd'hui plus de 10 000 bois qui ont été intégralement conservés, entre 600 et 700 palettes de pierre, et environ 350 palettes d'éléments métalliques.
Est-ce qu'il s'agit à ce moment-là de se dire ces pierres-là vont retourner sur une future voûte reconstruite à l'intérieur de Notre-Dame ? Ou alors elle servira de modèle.
Les architectes eux-mêmes ont beaucoup évolué dans leur manière de voir les choses. Il y a des pierres qui vont servir de modèle. Il y a des pierres pour les tailleurs de pierre, enfin, qui vont retravailler. Il y a peut-être des pierres qu'on va arriver à remettre en place, mais c'est courir des risques. Hein. Une pierre peut être en apparence en bon état et être en réalité fissurée à l'intérieur. Ce sera peut-être à titre symbolique, justement. Garder une ou deux pierres anciennes, c'est un vieux principe, en fait, de la construction aussi, en particulier dans les édifices religieux. Et puis il y a aussi tout ce qui peut permettre de mieux comprendre comment ces arcs étaient construits. Ça va permettre d'aider l'établissement public à faire les meilleurs choix en matière de reconstruction des voûtes.
Ce qui est important, Aline Magnin, c'est que ce malheur, cet incendie, permet aujourd'hui de faire avancer la connaissance scientifique sur Notre-Dame. Finalement, ces vestiges dont vous parlez, qui ont été triés ici, c'est une matière à recherche scientifique exceptionnelle.
Ah oui, oui, du point de vue par exemple des bois, il est rarissime que l'on puisse avoir une telle quantité de bois de diverses périodes à portée de main et utilisable pour la recherche, utilisable pour quantité de questions qui vont de l'origine de ces bois, des conditions dans lesquelles ces bois ont été cultivés, du climat de l'époque. Hein, le bois enregistre la mémoire climatique de manière assez extraordinaire. Hein. Donc le chantier scientifique Notre-Dame, qui est né au lendemain de la catastrophe, rassemble des chercheurs de très nombreux laboratoires, universités, des scientifiques de sciences dures, mais aussi des historiens. Au moins à certaines périodes, on peut compter qu'il y a environ 175 chercheurs qui sont impliqués dans ce chantier.
Ça va ? Et toi ? Bien ?
Il y a une vraie camaraderie sur le chantier. Vous vous êtes fait des amis ici, Dorothée ?
Il y a une famille Notre-Dame qui s'est créée presque naturellement. Et on arrive à une phase de transition entre le chantier de sécurisation et le chantier de restauration. Un certain nombre de personnes qui étaient présentes depuis deux ans progressivement partent du chantier. Et je ne doute pas qu'il y aurait un certain baby blues au moment de partir pour les uns et pour les autres. D'un point de vue humain, ça a été vraiment une expérience hors du commun.
Et cette visite du chantier de Notre-Dame, de ses différents métiers, ses rencontres au micro de Rémi Brancato, vous les retrouvez sur franceinter.fr et sur les bonnes plateformes de podcast, tous les épisodes de ce feuilleton qui était réalisé par Lucie Lemarchand. Et donc ce week-end, les journées du patrimoine, le bureau de Jean Lebrun à France Inter peut-il être visité? C'est la question.
France Inter, le 13-14.
Réponse?
Bah, il date de la plus haute.
Alors, votre contribution aux journées du patrimoine. Alors, vous allez nous parler de château, comme un Stéphane Bern, en quelque sorte.
Oui, parce que lui, il a abandonné ce couloir. Ce jeudi, Monsieur Patrimoine...
Oui, lui-même, Stéphane Bern.
...a invité le couple présidentiel à l'un de ses déplacements officiels. Et où l'a-t-il emmené? Bah, sur la route qui mène de sa propriété du Perche, à Paris, dans un village de rien du tout. Il y est Combray, une petite maison avec à peine un jardin de curé, chez une certaine Madame Léonie. D'ailleurs, je lis dans l'Express, hein, qui a consacré sa une à Stéphane Bern, un long dossier où il est expliqué qu'il n'aurait plus Dieu que pour les vieux moulins à eau, la petite sidérurgie du 18e, quand c'est pas pour la collection communiste du musée d'histoire populaire de Montreuil, dans le 93. Alors moi, je ne veux pas laisser les châtelaines et les châtelains abandonnés à leur sort, et je vais leur consacrer cette chronique, et parmi elle et eux, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, Bruno, oui, s'il vous plaît.
Je ne parlerai que des nobles qui ne méritent pas d'être traités comme des ci-devant.
Bon, mais peut-être, mais vous me dites qu'il y a 45 000 châteaux en France et seulement 3 000 familles nobles.
Chiffre avancé par l'Association de la noblesse française qui ne donne son estampille qu'aux meubles de haute époque. Car sachez-le, Bruno, c'est pas parce que vous deviendriez du plus loin vic par un coup de savonnette à vilain que vous seriez noble pour autant.
De quoi? De savonnette à vilain?
Oui, parce que au beau temps de la monarchie, comme oui, dirait Stéphane Bern, on pouvait espérer effacer sa roture en payant son anoblissement. Mais les Français savent discerner le vrai du faux. Aux journées du patrimoine, ils préfèrent visiter par priorité les châteaux que leur ouvrent de vrais nobles. Je me souviens d'une visite au château de Busset, dans l'Allier. Un nouveau propriétaire avait appris à sa guide à se moquer des anciens, les Bourbons Busset, que la ruine avait contraint à vendre. Les Bourbons Busset, voulant ajouter encore quelques années après 14 générations, s'incrustaient dans la demeure. Et quand nous sommes parvenus au pied de l'aile où ils s'éternisaient, eh ben, nous les avons longuement cherchés derrière les rideaux parce que nous étions nostalgiques. Une nuit, dans une chambre d'un château. Le repas à la table des maîtres, mieux le mariage dans leur chapelle ou leur salon, c'est le dernier zoo humain qui soit encore permis aujourd'hui.
Vous voulez dire que la difficulté des châtelains, que des considérations économiques contraignent à ouvrir leurs portes, les met en difficulté donc?
Comment autrement, sans ouvrir, relever les toits, fumer les terres autour? Autre souvenir,
oui.
Un week-end à Annette, Eure-et-Loir, invité par les lointains successeurs de Diane de Poitiers.
Oui.
Dans la salle à manger, la table, dont l'acajou brillait comme l'argenterie, était superbement mise, mais j'étais à peine assis qu'un chewing-gum me collait à ma culotte, dissimulé là par les visiteurs du matin. Et ensuite, il a fallu manger en deux temps trois mouvements sous peine de voir les visiteurs du soir surgir avant le dessert. Et la nuit, j'avais oublié mon tabac dans le salon. Impossible d'aller le chercher parce que un rayon laser barrait la route du hall. Il faudrait, Bruno, salarier les familles qui maintiennent ces demeures. Vera, nobilitas, virtute, virescit.
C'est à la vertu qu'on reconnaît la vraie noblesse.
Je savais que votre italien était courant.
Alors, si Stéphane Bern appartenait encore à son ancien monde, il insisterait sur la difficulté des transmissions et des successions. Ben et oui, vous allez le faire.
Comment dédommager les cadets qui n'héritent pas du château? Et comment consoler les aînés qui jalousent les cadets parce que ceux-ci n'ont pas la charge d'un chantier permanent? Depuis longtemps, la noblesse, on ne le sait pas assez, a su conjurer le déclin en prenant le chemin des écoles les plus profitables, HEC, ESSEC, etc., et en s'internationalisant. Et sa jeune génération montante, décomplexée, commence à dire qu'elle préférerait passer des vacances dans l'air climatisé de Dubaï plutôt que dans les courants d'air des vieilles baraques au milieu de la cambrousse. Alors, prenez garde tout de même à ce que cette génération montante dit. Elle a aussi suivi des cours de communication pour apprendre à pleurer misère face aux caméras et elle a tout appris des émissions de Stéphane Bern.
Qu'on salue amicalement. Intelligence Service demain, 18h.
Dante.
C'est bien noté et donc payer son anoblissement, c'est utiliser la savonnette à vilain. Mathieu Vidard, en un tout petit mot, la terre au carré, le club aujourd'hui.
Voilà, oiseau migrateur, insecte et fertilisant. Salut.
On est en retard.